si vous voulez vous lever, on va lire les deux premiers versets du chapitre 11 de l'Apocalypse. Alors, Apocalypse, chapitre 11, les versets 1 et 2. « On me donna un roseau, semblable à une verge. Et l'ange se présenta et dit, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Alors, vous pouvez vous asseoir. Alors, tout simplement, ceux qui ont des notes, j'ai donné comme titre « Jean se voit donner l'instrument pour mesurer le temple et rejeter le parvis extérieur. » Alors, on va développer tout cela. Alors, je vois le texte, trois choses qu'on va développer. La mesure, on parle de mesure, on va voir sa définition et la mesure, sa détermination. Il lui demande de mesurer des choses précises au nombre de trois. Et il fait aussi une délimitation. Il fait une mesure, mais il dit « ça, ne mesure pas ». Alors, on avait vu au cours des leçons précédentes que le Seigneur avait dit qu'il enverrait aux hommes trois grands malheurs. Et les trompettes avaient commencé à sonner. On avait vu qu'il y avait deux grands malheurs qui avaient été annoncés. Et on arrête à la sixième trompette. Et le chapitre 10 et le chapitre 11, c'est comme une parenthèse. C'est comme quelque chose que le Seigneur veut que la septième, on va le savoir plus tard. Mais il y a une raison pourquoi qu'il l'insère à cet endroit précis-là. Parce que justement, la septième trompette va être une trompette qui va annoncer des choses très, très, très importantes sur l'humanité. Et il est en train de vouloir préparer l'Église pour leur dire que le sort qu'il va y avoir entre les croyants et les incroyants va être différent. Et il se sert de cette image-là, on va voir, on va le développer tantôt. Alors, la cinquième trompette, juste pour revenir sur qu'est-ce que c'était la cinquième trompette, c'était le premier grand malheur que les Écritures nous disent. Alors, c'était que les démons recevaient la permission de Dieu de tourmenter les incroyants et les persécuteurs, impies bien entendu, de façon très intense, tant physiquement que moralement ou psychologiquement. Mais la chose qui, Dieu limite le pouvoir, leur pouvoir des démons, il limite leur pouvoir en ne permettant pas que les incroyants puissent se procurer la mort. Parce que si on recule dans les leçons qu'on a vues précédemment, la mort fuira loin d'eux. Alors, le jugement va être sévère, mais Dieu ne permettra pas que les incroyants s'en tirent en se tirant ou en mourant de quelque façon que ce soit. On avait regardé aussi la deuxième trompette qui était le deuxième grand malheur. C'était, on avait vu que c'était 200 millions, mais on sait très bien qu'il parlait de sauterelles, mais tout le contexte nous montre que ça ne peut pas être des sauterelles terrestres, les insectes, que c'était plus fort probablement, encore une fois, Dieu qui enverrait, permettrait que les démons descendre sur terre et qu'il y avait une armée de 200 millions de démons. Et là, eux, ils ont une différence avec le premier. On voit la sévérité des jugements va toujours en grandissant. C'est pour ça qu'entre la sixième et la septième est vraiment la trompette qui va annoncer des choses très graves. Et nous emmène tout cela pour nous dire, pour nous consoler les chrétiens de toutes les époques. Ça, on va voir tantôt. Notre façon d'interpréter, notre école d'interprétation va être extrêmement importante, sinon on risque de déraper et de faire dire des choses aux Écritures qu'ils ne disent pas. Donc, une armée de 200 millions de démons, eux, ils ont la mission de tuer. Ils reçoivent non seulement la permission, mais l'ordre de Dieu. Ils reçoivent, ils vont pouvoir tuer le tiers de l'humanité. Fait que si on parle, disons, aujourd'hui, de 8 milliards et demi, chose comme ça, ça voudrait dire que Dieu permettrait que les démons, sous toutes sortes de formes, ça peut être des abus de drogue, ça peut être du crime, toutes sortes d'affaires, Puis, il peut arriver que les êtres humains, il y aurait le tiers de l'humanité que le Seigneur permettrait qu'ils soient, qu'ils pourraient trouver la mort. Alors, c'est pas un petit jugement, là. Mm-hmm. C'est plus on s'en va vers la septième trompette, plus les jugements prennent de l'ampleur, autrement dit. Et vu qu'on avait annoncé trois malheurs et sept trompettes, au point où on était rendu, dans le chapitre 9, à la fin du chapitre 9, ça arrête, le chapitre 10 est une parenthèse, et le chapitre 11 aussi. Moi, ce qui m'a donné un petit peu de problème en début de semaine, quand j'ai tout revisé les notes que j'avais à la maison, puis là, deux, trois auteurs unanimement disent « Fais attention ici, parce que si tu te trompes ici, tu vas te tromper dans tout le reste des Écritures. » Alors, je me suis dit « Oh, là, je l'ai pris au mot. » Je me suis dit « Je vais aller vérifier dans plusieurs sources pour voir si les gens s'accordent à dire ça et voir qu'est-ce qu'ils considèrent qui est si important qui peut soit nous emmener dans une bonne interprétation du reste du livre, ou qui peut nous emmener à déraper pour le reste du livre. Alors, on avait vu que le Seigneur nous dit dans Apocalypse, chapitre 11, les versets 14 et 15, là, c'est là qu'il nous dit que la septième trompette va arriver. Mais c'est très important de réaliser que le chapitre 10 et le chapitre 11, aller jusqu'au verset 13, c'est une parenthèse. Si on ne comprend pas ça, quelque part, on manque de bâton un peu. Là. Alors, ça dit dans Apocalypse 11, versets 14 et 15, « Le second malheur est passé. » On est rendu deux chapitres plus loin. Avant, dans le chapitre 9, ils ont été rendus au deuxième malheur. Mais là, il dit « Le second malheur est passé. » Deux chapitres plus loin. Après ça, il dit « Voici le troisième malheur qui viendra bientôt. » Il n'est pas arrivé encore. Or, le septième ange sonna de la trompette. Donc, la septième trompette est deux chapitres plus loin. Normalement, on s'attend qu'à une trompette, deux trompettes, on s'attend après la sixième qui va nous donner la septième. Mais là, il y a une parenthèse qui dure deux chapitres, ou presque deux chapitres complets. Il va jusqu'à 11-13. Et il sonna de la trompette et de grandes voix se firent entendre dans le ciel qui disaient « Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ. » Il régnera au siècle des siècles. Le premier point, quand vous avez la page 2, c'est vraiment l'importance d'un choix judicieux de la bonne interprétation. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir dans les livres que j'ai utilisés ou que les auteurs sont unanimes à dire que c'est important. J'ai pris le texte anglais de leur livre, je l'ai copié dans Google et j'ai sorti la traduction. Puis quand c'est un petit peu boiteux, je le corrige. Mais je l'ai corrigé... honnêtement. Alors, voici ce qu'ils disent. Herman Oxema, c'est celui que je me sers le plus je dirais, le développement, le fil conducteur, je dirais. C'est lui que je me sers pour le fil conducteur. Le reste, je vais chercher ça un petit peu partout. Voici ce qu'il dit. Le 11e chapitre de l'Apocalypse est l'un des chapitres les plus importants de tout le livre. Ce n'est pas un chapitre facile à comprendre dans toute sa signification, et pourtant, il est de la plus haute importance que nous le comprenions le plus clairement possible. Si nous comprenons ce chapitre, non seulement en tant que tel, mais aussi dans sa relation avec la suite de tout le livre, nous aurons moins de difficultés à saisir la signification du reste du livre. Mais l'incompréhension du chapitre dont nous devons maintenant discuter, nous conduit dans la mauvaise direction en ce qui concerne pratiquement tout ce qui suit. Mm-hmm. Hey, c'est pas une petite affirmation qu'il est en train de dire là. Il dit, si tu comprends pas là, tu comprendras pas le reste. Fait que, dans ce temps-là, je pense que si tu es moindrement sérieux, tu vas t'organiser pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il veut dire. Oui. Joel Beakey, bon, moi je le prononce Beakey, je sais pas si c'est...
Beakey, hein.
C'est Beakey. Oui. Joel Beakey, c'est un pasteur américain très connu, un conférencier international. C'est un homme de haut niveau, là, au point de vue théologique. J'ai acheté son livre sur l'Apocalypse, et voici lui aussi, il parle de ça, il dit « Il est essentiel que nous interprétions ces versets correctement, car notre interprétation influencera notre compréhension de tout le livre de l'Apocalypse. » Alors, quand deux, trois grands auteurs, des réformés, disent ça, ben là, moi, ça m'allume. Je me dis, bon, OK, ils sont en train de dire quelque chose d'important. Et un autre qui a écrit une brique. Quand je parle d'une brique, là, si vous avez le courage de tout lire ça d'une shot, vous êtes très mal courageux. En tout cas, J.K. Beale a dit la chose suivante. Les métaphores de ces versets sont difficiles et nécessitent un examen attentif. Alors, j'ai toutes mis les références en anglais, vous pouvez trouver les pages, tout ça. Mais là, je me suis dit, je devrais mettre peut-être une petite note sur les métaphores. Parce que des fois, dans une conversation, je dis, hey, j'ai une belle petite métaphore que tu viens de faire là. C'est rare qu'on utilise ça dans nos conversations. Je me suis dit, peut-être, ça serait une bonne idée de rappeler aux gens, c'est quoi une métaphore? Disons que je dis, sur la rue Saint-Jacques à Montréal, il y a les requins de la finance. Selon vous, je parle-tu de l'animal? Ou je parle d'une similarité avec l'animal? Mais ça ne dit pas, les gens de la rue Saint-Jacques sont comme des requins. Ça dit les requins de la finance. Alors ça, c'est une métaphore. Alors, c'est important de comprendre le langage de la métaphore parce que le temple, le roseau et les autres choses qui vont être mentionnées, ce sont des métaphores. Alors, si tu manques ton coup, tu ne comprends pas que c'est des métaphores puis que tu interprètes ça littéralement, là, tu risques de faire dire des choses aux Écritures qu'ils ne disent pas. Alors, j'ai pris la définition qu'on trouve sur Wikipédia. Juste pour donner un petit exemple, la métaphore du latin metaphora, lui-même du grec metaphora, qui veut dire au sens propre transport, est une figure de style fondée sur l'analogie. Elle désigne une chose par une autre qui lui ressemble ou partage avec elle une qualité essentielle. La métaphore est différente d'une comparaison, parce que d'une comparaison, ça veut dire comme. La comparaison affirme une similitude. La lune ressemble à une faucille. Là, ça, c'est vraiment une comparaison parce que tu l'as par le mot « comme ». Mais quand, là, il donne l'exemple de Victor Hugo, qu'en regardant le ciel, il a vu un quartier de lune, puis voici comment il exprimait ça. Il a dit « cette faucille d'or dans le champ des étoiles ». C'est poétique, mais c'est ça une métaphore. La faucille d'or, c'est un quartier de lune. En regardant le ciel, tu l'appelles la faucille d'or. Fait qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de faucille d'or dans le ciel, mais il utilise l'image pour illustrer l'image d'un quartier de lune qui est dans les étoiles, et tu l'appelles cette faucille d'or dans le champ des étoiles. C'est de la poésie, là. Mais c'est important, des fois, les Écritures utilisent des métaphores, de faire la différence entre une métaphore puis un langage littéral, qu'on pourrait dire. Alors, la deuxième chose que les auteurs nous font remarquer, que vous avez des décisions importantes à prendre au moment où vous commencez 10 et 11, surtout 11. La première décision que tu as à prendre, si tu veux interpréter le texte correctement, le passage doit-il être interprété littéralement ou symboliquement? Nous, notre choix, j'ai fait mon choix, c'est-à-dire que le passage doit être interprété symboliquement. Il y a des raisons, je ne sais pas quand. Mais si on rentre des raisons, c'est parce qu'on va rester longtemps dans l'introduction. La deuxième chose, quelle école d'interprétation est la plus harmonieuse avec le reste du livre et de l'ensemble de la Bible? Il n'y a plus que trois. Bill en donne cinq, mais je pense qu'il peut le résumer à trois, mais avec des variantes. Chaque école a des variantes. Alors, quelque part, si on comprend les trois, on comprend l'ensemble des interprétations qui ont été données dans la Bible. Alors, quand je dis voir le tableau en annexe, là, vous allez aller voir en arrière, votre feuille qui est en arrière. Et là, je les ai mis les trois, parce que c'est important de savoir que si tu rejettes un système d'interprétation de la Bible, tu le rejettes pourquoi? Puis, bien souvent, aujourd'hui, il y a plein de choses qui circulent concernant l'Apocalypse qui nous viennent d'une interprétation dispensationaliste. Alors, si tu rejettes le dispensationalisme, à quelque part, il faut que tu le rejettes de façon cohérente. Alors, on voit que j'ai mis les trois systèmes côte à côte, le dispensationalisme, le prétérisme et l'idéaliste. Alors, nous, on pense que la façon d'interpréter le passage, c'est la façon idéaliste. Alors, il faut se poser la question, le système dispensationaliste, de quelle approche, quelle emphase qu'il utilise? On le sait, les dispensationalistes mettent l'emphase énormément sur le côté littéral des choses. Ils disent que la majorité du temps, c'est sûr que des fois, ils font des distinctions, là, mais la majorité du temps, ils disent que c'est littéral. L'interprétation prétériste, c'est mixte. Si vous allez chercher des affaires de... Alors, il y a des endroits, des fois, même dans le même passage, il dit ça, c'est littéral, puis un petit peu plus loin, ils vont dire ça, c'est symbolique. Nous, on croit que la méthode d'interpréter correctement, parce que c'est celle qui s'harmonise avec l'ensemble des Écritures, on pense que c'est le système idéaliste. Maintenant, ce qui est important aussi de réaliser, c'est l'époque de l'action. Vous allez voir l'importance de ça. Si vous vous souvenez, quand on était rendu au chapitre 4, il y a le fameux passage qui dit « monte ici ». Le fameux passage qui dit « monte ici », ça veut dire qu'eux comprennent que l'Église est enlevée et qu'elle est déjà au ciel. Donc, l'action, les chrétiens sont déjà au ciel et tout ce qui se passe à aller jusqu'au chapitre 20, je pense, sont portés à dire qu'on n'est pas là, c'est les gens de la terre qui vivent ça et c'est Israël qui vit ça. En tout cas, c'est toute une histoire. Alors, l'époque de l'action, pour eux, c'est futur. L'action est future. Pour les prétéristes, l'action est dans le passé. On va voir l'importance de ça, c'est parce que dans le passé, les prétéristes disent que toute l'action s'est passée dans le passé, et c'est toute la question de la destruction du temple. L'année de destruction du temple est une clé là-dedans. Alors, c'est comme on sait que la plupart des auteurs que nous, on reconnaîtrait comme étant des conservateurs, vont donner l'année 95 à peu près, là. Ça peut varier un petit peu, mais l'année 95 comme l'année. Mais vous allez voir, c'est très intéressant des fois de regarder ces dates-là. Des fois, ça nous mêle un peu, mais c'est très important. Parce que si le temple est détruit en 70, et que là, le Seigneur est en train de parler à Jean en 95, ça veut dire que le temple physique, il n'est plus là. Alors, quand il dit « mesure le temple », est-ce qu'il peut parler de mesurer un temple qui n'est plus là? Alors, c'est tout ce genre de détails-là qui font en sorte que ça t'oblige à choisir un système. Maintenant, aussi, il y a la question de la localisation de l'Église. L'Église est où? Pour les dispensationalistes, l'Église est au ciel. Elle a été enlevée. L'enlèvement. S'il y a une doctrine qui est répandue de nos jours, c'est vraiment celle-là. Là. Alors, pour les prétéristes, l'Église est sur terre, mais c'est uniquement celle de l'époque où a été écrit l'Apocalypse. Autrement dit, pour eux, ça a été écrit avant 95, et ça, l'action se passe uniquement au moment où ces gens-là ont été écrits. Et l'idéaliste dit que l'Église est sur la terre. Il y a une super de grosse différence, parce que si je dis qu'à partir du chapitre 4, là, aller jusqu'au chapitre 20, l'Église est enlevée, tous les malheurs qui sont annoncés, là, tu es en train de dire ça ne t'arrivera pas à toi, ça. Puis si tu interprètes de façon idéaliste, ça veut dire que quand les malheurs vont arriver, qui sont annoncés par le Seigneur, tu vas être là, toi, comme croyant, tu vas être sur la terre. Et ce que je pense que c'est vrai, c'est ça. Alors, il y a aussi la question de la signification des éléments. Tout à l'heure, on a parlé de métaphorique. Les éléments, je les ai nommés, là. Le roseau, le temple, l'autel, les adorateurs, le parvis extérieur, la ville sainte, les 42 mois. On va aller un peu plus en détail dans le développement, là. Mais c'est juste pour vous montrer l'importance du choix de l'école. Pourquoi les auteurs, là je ne rentre pas dans les détails, mais pourquoi les auteurs rejettent le dispensationalisme? Dans la première colonne, en bas complètement. Il dit, on le rejette parce que pour eux, le livre de l'Apocalypse est perçu comme s'adressant majoritairement à Israël ethnique, autrement dit aux Juifs sur la terre. Parce que eux sont les croyants, selon eux, ils ne seront plus là, sont déjà partis. La deuxième raison, c'est que leur croyance à la reconstruction future du Temple à Jérusalem. Le Temple, le site est actuellement et présentement occupé par deux sites considérés saints par les islamites, le Dôme du Rocher et la mosquée d'El-Aqsa. Imaginez, vous êtes en plein dans un pays où il y a une guerre entre les islamistes et les juifs, puis vous allez dire à un endroit, le Dôme du Rocher, on va détruire ça, puis on va mettre le temple à la place. Je te souhaite bonne chance. C'est ça qu'il faut comprendre, là. C'est que, selon l'auteur que j'utilise, Oxema, il dit, c'est impossible, tu vas mettre le feu à la planète, si tu fais ça. Alors là, les gens qui croient que le temple va être reconstruit à Jérusalem, ils font toutes sortes de pirouettes pour expliquer comment ils peuvent arriver à enlever la mosquée et enlever le dôme du rocher, puis à venir reconstruire le temple, l'ancien temple là-dessus. Good luck, man. ça, c'est la deuxième raison. La troisième, c'est que Jésus, dans Matthieu 27, 51, a mis fin au système sacrificiel et il n'a jamais parlé d'un futur temple. Troisième raison. Quatrième raison, Dieu a permis que ce temple-là, qu'il y avait à l'époque, soit détruit en l'année 70. Donc, sa reconstruction par les Juifs serait véritablement un monument du rejet de Jésus. Donc, c'est pour ça qu'il lui dit non. No way. On pourrait aller beaucoup plus dans les explications des détails, mais en gros, c'est à peu près ça. Pour les prétéristes, pourquoi c'est rejeté? Parce qu'il dit, le système suppose que le livre de l'Apocalypse a été écrit avant la destruction du Temple en l'an 70. Alors que beaucoup de commentateurs disent que c'est en 95. S'il dit qu'il était fait avant, ça change toute la game, comme on dit. La deuxième chose, c'est l'inconsistance dans l'utilisation des interprétations littéralistes et symboliques. Autrement dit, eux sont toujours en train de osciller entre dans l'interprétation du passage. La troisième, l'idéaliste, c'est que ça a été accepté, nous on l'accepte comme étant parce que c'est la position traditionnelle des églises réformées. Si vous prenez des livres sur l'Apocalypse qui ont été écrits par des réformés, on va vous dire que c'est à peu près ce qu'on va enseigner aujourd'hui et dans les semaines qui viennent. Et on croit aussi que c'est la position qui s'harmonise le mieux avec les données bibliques. C'est vrai que c'est pas facile, parce que si vous commencez à lire j'en ai des livres sur l'Apocalypse à la maison. Si tu essaies de construire des sermons en allant fouiller dans ce que les dispensationalistes ont dit, dans ce que les idéalistes ont dit, puis dans ce que les prétéristes ont dit, je te souhaite bonne chance pour mettre de l'ordre dans tes idées. Vraiment, je te souhaite bonne chance. Alors, la deuxième, là, on était rendu à la page 2, au numéro C, 2C. Là. Est-ce que nous adoptons, aussi, très important, est-ce que nous adoptons la règle que l'enseignement du Nouveau Testament éclaire et détermine le sens des passages de l'Ancien Testament, et non l'inverse? Parce que vous allez vous rendre compte, quand vous étudiez le livre de Daniel, ou le livre, par exemple, dans Ézéchiel 40 à 48, où on parle de temple encore, là, si tu ne fais pas le bon choix, là, tu vas avoir des problèmes. Alors, c'est vraiment, il faut que tu acceptes la règle qui est acceptée par, je dirais, la plupart des commentateurs conservateurs, réformés, que c'est le Nouveau Testament qui interprète les versets de l'Ancien et non l'inverse. Souvent, eux autres, ils font l'inverse. Alors, ils prennent des affaires de l'Ancien Testament, puis ils viennent nous emmener ça dans le Nouveau Testament, alors que le Nouveau Testament enseigne plus cette chose-là de cette façon-là. Alors, c'est très important, parce que moi, je pense que la clé de la compréhension puis du développement de l'interprétation du livre est là. Le but, maintenant, de la parenthèse, qui va de 10.1 à 11.14, c'est que trois grands malheurs ont été annoncés, et deux d'entre eux ont déjà été révélés, on les a nommés tantôt, on les a décrits un petit peu, ça, très sommairement. Alors, il y a sept trompettes qui vont sonner, mais il y en a six qui ont déjà sonné. Pourquoi il nous donne la septième deux chapitres après? Pour qu'on comprenne que le sens symbolique de 11, 1 et 2, c'est vraiment que Jean se voit donner les moyens de distinguer les vrais croyants des incroyants. Parce qu'il est en train de vouloir consoler le peuple de Dieu, leur faire prendre conscience que peu importe ce que le malin va emmener, même s'il t'enlève la vie, il veut te rassurer et veut te consoler comme de quoi que tu vas avoir la protection divine. La protection divine, ça ne veut pas toujours nécessairement dire qu'il va protéger ta vie. Il peut te l'enlever. La preuve, au premier siècle, il envoya les gens au lion. Mais qu'est-ce qui était protégé? Leur vie éternelle. Même si tu te fais manger par un lion, tu vas aller au ciel pareil. Oui. C'est ça qu'il est en train de te dire. Il est en train de dire le septième malheur qu'on est sur le bord de développer est très grave. Beaucoup de choses très importantes. Et on parlait hier en discutant en maison. Est-ce que beaucoup de personnes croient qu'on est dans les temps de la fin? On en parlait hier. On croit que oui, on est dans les temps de la fin. Parce qu'il y a trop d'éléments qui viennent nous démontrer qu'on est vraiment rendu à cette période-là. Alors, on relit Apocalypse 11, versets 14 et 15. Le second malheur est passé. Voici, on est rendu là, deux chapitres plus loin. Vous pouvez oublier, on était dans le chapitre 9. On a tout vu le chapitre 10. On a tout vu le 11, aller jusqu'à 13. Et là, qu'il nous dit que le troisième malheur va arriver, puis la septième trompette va sonner. Et là, si on ne la voit pas, la parenthèse, on ne la verra jamais. Alors, le second malheur est passé. Voici le troisième malheur qui viendra bientôt. Pourquoi le Seigneur veut consoler son Église, il veut la préparer. Il y a des choses graves qui s'en viennent. Puis le fait de les protéger, ça ne veut pas nécessairement dire que vous autres, vous ne traverserez pas ça, puis vous ne vivrez pas les choses qui sont décrites. Alors, le Seigneur veut signifier à son peuple qu'ils connaîtront de grandes difficultés et de grandes souffrances à mesure que le monde et Satan augmenteront leur opposition à Jésus-Christ et à son évangile, et plus particulièrement lorsque le temps de sa deuxième venue approchera. Si on a raison de dire, quand on discute entre nous autres, que le temps de la fin est proche, il est en train de nous dire que toute la période de souffrance puis la période de persécution va être de plus en plus sévère, plus on va s'en aller vers le rapprochement du retour du Seigneur. C'est important pour nous autres, parce que si on est vraiment dans cette période-là, ça veut dire, attendons-nous pas à être enlevés. Attendons-nous à vivre les choses que les païens vont vivre et que nous, on peut vivre. Ça peut être par différents moyens qui vont nous persécuter, nous faire souffrir. Actuellement, pensez-vous qu'il n'y a pas des chrétiens qui souffrent à cause de toutes les affaires qui se passent? Alors, ce que le Seigneur veut, c'est qu'il veut, il veut encourager son peuple, et il veut le persuader que le Seigneur lui-même va les préserver, il va les fortifier, et il va permettre que leur témoignage continue malgré tout cela. Est-ce qu'on continue à évangéliser pareil depuis qu'on est dans le trouble, qu'on est dans le confinement ou dans toutes ces affaires-là? On continue notre témoignage pareil, parce que les versets suivants, vous allez voir la question des témoins. Alors, c'est vraiment, ça s'inscrit dans le Seigneur est en train de dire aux siens, peu importe le degré de souffrance et de persécution que vous allez connaître, le témoignage à Jésus-Christ va continuer. Ne serait-ce que par votre mort, que vous allez accepter, un peu comme les premiers chrétiens, au moment où on les jetait au lion, ou maintenant qui étaient brûlés, ou n'importe quoi, quelque part, leur témoignage, leur manière de mourir, souvent, était une occasion pour d'autres personnes de se convertir. Alors, il est en train de nous dire, ça se peut qu'on connaisse les souffrances, ça se peut qu'on connaisse les misères, mais Dieu la préservation, moi je le vois tout simplement comme si tu décèdes, peu importe ce qu'ils vont te faire, tu vas aller au ciel pareil. Fait que c'est ça Alors Matthieu 16 au verset 18 nous rappelle que Jésus lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, nous a dit, « Et moi, Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Les portes de l'enfer, à l'époque, les conseils municipaux, c'était pas dans les bâtisses, c'était aux portes de la ville. Il est en train de dire que les conseils des démons et de toutes les forces de l'enfer combinées, comment qu'ils essayeront d'arrêter le témoignage que les chrétiens vont faire de Jésus-Christ, sur Jésus-Christ et pour Jésus-Christ jusqu'à la fin, ils seront jamais capables. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon église. C'est lui qui bâtit. Alors, comment que les hommes essaieront de se mettre à travers que l'ensemble des démons de l'enfer ils réussiront pas. Jamais. Parce que le Seigneur le dit. Une note de Paulin Bédard, j'utilise aussi les notes de Paulin Bédard. Paulin Bédard a mis sur Internet son interprétation de tout le livre de l'Apocalypse. Et je me sers souvent de ses notes parce qu'il sort souvent des choses très, très intéressantes. Alors, voici ce qu'il dit, lui, sur la parenthèse d'Apocalypse 10, 1 à 11, 14. Il dit, la parenthèse d'Apocalypse 10, 1 à 11, 14 explique la relation qui existe entre les non-croyants et les croyants durant la période où les trompettes de jugement sonnent. Les non-croyants persécutent les croyants, mais les chrétiens sont rendus capables de témoigner fidèlement. Autrement dit, même si ça se met à aller mal puis qu'ils se mettent à vouloir nous dire « tu n'as plus le droit de témoigner », Dieu dit qu'il va nous donner la puissance nécessaire, la force nécessaire. Il va nous soutenir pour qu'on soit capable de continuer à témoigner de lui malgré la gravité et l'intensité des choses qui peuvent essayer de nous bloquer dans ça. Alors, ça fait une introduction qui est longue. D'habitude, je n'ai pas une introduction sur ça. Mais pour les besoins de ça, je pense que c'était nécessaire. Parce que si on ne fait pas ça, à ce moment-là, on se trompe. Comme il a dit au début, ça peut nous amener à interpréter incorrectement le reste de tout le livre. Alors, on commence par le premier point, la mesure, sa définition. Dans la première partie du verset 1, ça dit « Alors, on me donna un roseau semblable à un ange. » Et si on regarde un petit peu à la fin, dans l'autre, c'est à qui l'ange qu'on avait déterminé? C'était Jésus lui-même. Autrement dit, j'interprète le passage comme étant « Dieu donne à l'apôtre Jean la capacité de distinguer dans ceux qui se prétendent croyants, ceux qu'ils sont véritablement, de ceux qui ne le sont pas. » Pour qu'ils comprennent que peu importe ce que le Seigneur va faire, ça va arriver. Alors, ici, il reçoit l'instrument avec lequel il va accomplir la mesure qui lui est commandée, et il parle d'un roseau. Un roseau semblable à une vierge. Si on va fouiller un petit peu dans les dictionnaires bibliques, qu'est-ce qu'on apprend par rapport au roseau? C'est que le roseau était utilisé pour mesurer à l'époque. C'était comme des tiges qui coupaient et une mettait une certaine longueur, puis c'était avec ça qu'ils mesuraient les choses. Alors, la mesure va servir à déterminer qui sera fortifié, qui sera protégé, qui sera soutenu pour la période de la persécution qui est prévue. Parce qu'on voit que la septième trompette, elle s'en vient là. Alors, le but de la mesure est de faire la différence entre les véritables croyants et les faux croyants. C'est un problème sérieux dans l'Église moderne aujourd'hui. Là. Quand tu discutes ça avec n'importe quel, je dirais, des pasteurs conservateurs, moi, j'ai lu déjà quelque part, ça me fait dresser les cheveux de sa tête quand je dis ça, je n'ai pas beaucoup, mais ça a dressé pareil. Il y en a qui a avancé le chiffre de 15%. Ce n'est pas des deux de pique qui disent ça, là. Qui disent que dans les églises, dans l'église contemporaine, moderne, il n'y aurait que 15% des personnes qui sont assises, qui sont des véritables croyants. Moi, je m'avance pas à dire si c'est ça ou si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais ce qu'il est en train de dire, je pense que ça, les Écritures nous le disent, Jésus lui-même, quand il parle de l'ivraie et du blé, n'est-ce pas que c'est ça qu'il nous dit? De penser, comme moi, je suis ici en avant, là, puis je vous vois, de penser qu'il y a de l'ivraie, là, dans la salle, si ça ne nous fait pas réagir, ça devrait nous faire réagir. Et ceux qui sont dans la salle, moi je vois, puis je ne peux pas dire, je ne peux pas lire dans les cœurs. Mais le Seigneur, il dit lui-même, laissez-les croître jusqu'à la fin, ensemble, et quand il va arriver le temps de la moisson, lui, il va s'occuper de dire qui est vrai. Le blé, il va le mettre dans son grenier, puis l'ivraie, il va la brûler. Juste à penser à ça, là. 15%, il était peut-être pessimiste, là. Mais mettons-le même à 50, ou même encore, montant encore plus, disons que 75% des églises, des gens qui sont dans les églises qui sont sauvés. Juste le fait de penser que pendant des années, il y a des gens qui se sont présentés dans les églises, ils ont cru qu'ils étaient sauvés, puis quand ils vont traverser, « Seigneur, je ne suis jamais revenu. » À quelque part, ça devrait nous emmener à s'examiner nous-mêmes, à regarder si on donne les signes d'une véritable régénération, d'une véritable marche chrétienne et les fruits qui s'accompagnent ces choses-là. Alors, la tige de roseau servait de canne à mesurer. Sa longueur fixe était de 6 grandes coudées. On le voit, par exemple, dans Ézéchiel, chapitre 40, verset 5. Et voici, il y avait un mur extérieur entourant la maison de tous côtés. Et l'homme qui avait à la main une canne à mesurer de 6 coudées, chaque coudée mesurait une palme de plus que la coudée usuelle, mesura la largeur de la construction qui était d'une canne et la hauteur qui était d'une canne. C'est intéressant de voir aussi que les différents auteurs utilisent des mots différents pour traduire le mot canne. Il y en a qui utilisent tige de roseau. En anglais, la King James dit rod. Alors, on sait qu'en anglais, a rod, c'est comme une verge. Un staff, c'est encore un autre bâton. Une baguette, la Louis Sagan 21, ou un bâton. Alors, vraiment, l'idée commune, c'est vraiment l'idée de mesure. Le Seigneur est en train de donner à Jean la capacité de mesurer qui sont les véritables croyants et de les distinguer des incroyants. En tout cas, moi, c'est la façon que je comprends le passage actuellement. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on avait lu dans Apocalypse chapitre 7, versets 3 et 4, quand Dieu avait dit qu'il arriverait toutes sortes de choses, puis il avait dit que juste ceux qui étaient scellés ne vivraient pas. Alors ça dit dans Apocalypse 7, on revient sur ce passage-là, en disant, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Alors vraiment, c'est la mesure que Dieu donne à Jean de juger les situations, mais avec un rod. C'est, tu ne juges pas avec ta tête, tu juges avec un bâton, quelque chose qui est en dehors de toi-même. T'sais. Alors quand quelqu'un veut juger de la santé d'une église, il faut qu'il regarde plein de choses. L'assistance au culte, la vie de prière des gens, leur vie avec les Écritures, est-ce qu'ils s'aiment les uns les autres? Et là, on pourrait allonger la liste. Je pense que Dieu est en train de dire à Jean, il est en train de lui donner la capacité de distinguer les vrais des faux pour que les vrais savent que Dieu va te protéger et va te préserver jusqu'au bout, et il va te donner la force de continuer à témoigner malgré les difficultés. Alors, je pense que ce qu'on va faire, on va arrêter là après le premier point. On terminera la semaine prochaine pour le reste.